Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Alors Antoine, dans votre histoire du cinéma, nous évoquons à la fois Joseph von Sternberg, le fameux cinéaste Pygmalion de Marlène Dietrich, mais aussi un film assez méconnu qui ressort dans les salles le 5 septembre, Anatane, réalisé en deux temps, entre 1953 et 1958, film qu'il tourna au Japon, que d'ailleurs Joseph von Sternberg considérait comme son plus beau film.
Oui, c'est vrai. Fièvre sur Anatane était considéré par Sternberg comme son plus beau film. C'est en tout cas ce qu'il dit de manière très ferme dans un chapitre assez long qu'il consacre à ce film, par ailleurs à peu près inconnu dans ses mémoires. Moi, j'avais eu la chance de le voir lorsqu'il y avait eu la rétrospective
dont
Sternberg
nous avions parlé,
à la Cinémathèque. Et c'est vrai que c'est un film qui est très étonnant, mais au fond, pour le regarder, il faut en effet se dire que Sternberg a fait de ce film son dernier film, ça a été son dernier film, et il a été pendant toute sa vie un filmeur des femmes et du désir, qui est tout à fait important. Je crois que c'est ce qui a dominé son œuvre, et dans une certaine mesure, ce film est un peu le point final et le point d'orgue de cette œuvre, et je pense que c'est pour ça aussi que Sternberg y était aussi attaché. Alors, retour quand même sur Sternberg lui-même, parce que le destin de Sternberg, c'est celui d'un enfant autrichien auquel les mauvaises affaires de ses parents vont valoir une éducation entre deux continents, ce qui n'était pas si fréquent au début du XXe siècle. À 7 ans, il part pour l'Amérique, il retourne à Vienne quand il a 10 ans, puis retourne une nouvelle fois aux États-Unis 6 ans plus tard, on est alors en 1910, où il achève un parcours scolaire chaotique, il vit de petits métiers, et c'est à New York qu'il découvre le cinéma comme manutentionnaire dans un entrepôt de pellicules, avant de devenir successivement monteur puis opérateur dans des studios de la côte Est. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Sternberg, c'est un réalisateur qui maîtrisait très bien tous les secrets de la pellicule, tous les secrets de la photo, et que ça prenait racine dans un parcours qui l'avait amené à porter la pellicule, à monter la pellicule et à être chef opérateur, à une époque d'ailleurs où il arrivait que le chef opérateur soit aussi réalisateur et inversement. Dans les années 20, il va débuter comme réalisateur à Hollywood. Il croise Charlie Chaplin, Mary Pickford. Il travaille successivement pour la Paramount et la MGM. Mais il n'arrive pas à percer. Et là, il va embarqué pour Berlin, qui est alors la capitale du cinéma, avec l'intention de filmer L'Ange Bleu, tiré de Heinrich Mann, qui raconte la descente aux enfers d'un honorable professeur subjugué par une artiste du Berlin interlope des années 20. Et Sternberg, qui connaît bien l'Amérique, pense que l'ambiance berlinoise peut faire un succès sur le nouveau continent, et il réussit à convaincre la UFA, le grand studio allemand, de produire le film à la fois en allemand et en anglais. Mais il n'a pas cette femme qui doit subjuguer ce professeur, il ne l'a pas. Et donc, il va errer à Berlin à la recherche de son héroïne fatale, va contempler tous les books d'actrices, et c'est dans un théâtre qu'il rencontre cette Marlène Dietrich et décide de l'imposer quoi qu'il arrive. Il dit « Son maintien impressionnant m'apporta la certitude qu'elle donnerait une allure classique à la tempête que l'héroïne de mon film devait déchaîner. » Sternberg et Marlène Dietrich ont donné des versions très différentes de leur rencontre dans leur mémoire et aussi de leur départ pour Hollywood. Mais ce qui est certain, c'est que le soir même de la première de L'Ange Bleu à Berlin, Marlène Dietrich part rejoindre Brême, d'où partent les bateaux pour l'Amérique, et elle part aussi rejoindre Sternberg, qui est déjà parti pour l'Amérique. Alors Sternberg, c'est pas lui qui va inventer le look de Marlène, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à Marlène Dietrich, mais il va inventer une façon de la photographier et de la mettre au centre d'un nuage de sensualité qui va être essentiel dans la construction de sa légende. Chacun des 6 films que Sternberg et Dietrich vont faire ensemble va participer à la construction de cette légende. Sternberg disait, avec son profond regard mélancolique, ses cils longs de 3 cm, le nimbe doux de ses cheveux, ses traits classiques, son air mystique et son corps de panthère, elle n'aurait pas pu entrer dans une église sans aussitôt troubler le sermon. Il va y avoir 6 films faits aux États-Unis par Dietrich et Sternberg. Cœur brûlé en 1930, où Sternberg laisse libre cours au penchant de Marlène pour l'ambiguïté sexuelle et les tenues androgynes. Agent X-27, inspiré de l'histoire de Mata Hari en 1931, où Sternberg cultive le mystère d'espionne et fait de Dietrich une héroïne de mélodrame. Dans Shanghai Express en 1932, chaque apparition de Marlène est travaillée par un concert de ventilateurs qui donne à ses cheveux un mouvement calculé et une dimension d'exotisme qui est très forte. Blonde Vénus en 1933, où Marlène emprunte le personnage d'une épouse dévouée, mais tellement dévouée qu'elle participe à des spectacles grivois. L'Impératrice Rouge, où les tenues de Marlène atteignent un degré de kitsch qu'on adore ou qu'on déteste. Personnellement, j'adore, mais c'est une question de goût. Et puis finalement, en 1934, La Femme et le Pantin, en 1935, pardon, où Dietrich interprète une vénéneuse espagnole, ce qui d'ailleurs ne plaira pas du tout au gouvernement espagnol, qui essaiera de faire interdire le film, à telle enseigne que la Paramount détruira toutes les copies et qu'on a ce film uniquement parce qu'on a retrouvé la copie personnelle de Marlène Dietrich.
Donc ça a été la raison d'un incident diplomatique.
La raison d'un incident diplomatique. Et là, bon, bah, la relation entre Sternberg et Dietrich, notamment à cause de l'échec de ce dernier film, va devenir une relation beaucoup plus difficile et ils vont arrêter de faire des films ensemble. Et Sternberg va déclarer avoir cessé de faire du cinéma en 1935. En fait, il va en faire encore après, mais il va faire vraiment allusion à la fin de ce cycle Marlène. Mais alors, cependant, il y a quand même des films. Et on se rapproche de Fièvre sur Anatahan, il y a quand même des films qui montrent que Sternberg savait faire de grands films sans Dietrich. Alors d'abord, je voudrais citer, parce que je crois qu'il ressort, ou en tout cas il est possible de le voir aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas pendant de longues années, un film qui s'appelle Une tragédie américaine, qui est inspiré du même roman que 20 ans plus tard, Une place au soleil de George Stevens, et ce film, Une tragédie américaine, qui est un film prolétarien, donc on n'attend pas vraiment Joseph von Sternberg sur ce créneau-là. Il est vrai que Sternberg avait remplacé au pied levé Eisenstein qui devait réaliser ce film aux États-Unis. Et donc, Une tragédie américaine, c'est un très très beau film. Et puis, il y a bien sûr Shanghai Gesture en 1941, où Sternberg filme la magnifique Jean Tierney dans une métaphore des enfers située dans une Asie imaginaire. Mais donc, le post-scriptum de Sternberg, passé, il faut bien le dire, à l'époque totalement inaperçu, c'est Fièvre sur Anatahan, tourné au Japon en 1953, alors que Sternberg était déjà presque oublié des studios. Mais je pense qu'il y avait chez Sternberg le rêve de faire de Fièvre sur Anatahan une sorte d'ange bleu asiatique. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'à un moment, Sternberg, dont la carrière pataugeait un peu aux États-Unis, est allé en Allemagne pour tourner un film qui était destiné à mettre en avant l'exotisme allemand auprès des Américains. Parce que dès le départ, Sternberg avait en tête de vendre l'Ange Bleu en Amérique et il avait considéré qu'il était essentiel d'avoir un personnage féminin, une actrice qui soit capable de porter cet exotisme et capable de véhiculer cet exotisme aux États-Unis. Or, qu'est-ce qui va se passer quand Sternberg va faire Fièvre sur Anatahan ? Il va mettre un soin quasi obsessionnel à aller chercher sa vedette féminine. Il va aller dans tous les bars de Tokyo, il va évidemment regarder tous les books d'actrices. Finalement, il va choisir une artiste de musical, mais dans un musical d'ailleurs qui est contrôlé par la même société que son producteur japonais, je crois que c'était la Toho d'ailleurs, qui est connu comme le grand studio japonais. Et donc, il va mettre un choix très important à choisir son personnage féminin. Car, bien sûr, le personnage féminin dans Fièvre sur Anatahan est très important. pourquoi.
Oui, alors, parce que quel est le pitch, quelle est l'histoire, qu'est-ce que raconte le film?
D'abord, juste quand même se dire, Sternberg, il arrive au Japon, il n'a pas de pitch, mais il veut, comme il avait réussi, encore une fois, un succès en transportant ailleurs l'exotisme allemand, cette fois-ci, il dit, je vais faire la même chose avec l'exotisme japonais. Ça va, je vous dis tout de suite, ça ne va pas marcher du tout. Mais donc, il se dit, voilà, je suis au Japon, je vais travailler avec des techniciens japonais, dans un studio japonais. Il raconte dans ses mémoires comment il avait découpé des bouts d'arbres en mettant des racines à l'air libre. Enfin, il a fabriqué une jungle dans un entrepôt d'un studio japonais. C'est tout à fait étonnant. Et donc, il veut faire ce film. On est à l'époque, on est en 52, puisque le tournage commence en 52. On est à l'époque où le Japon est encore dans les affres de la guerre. Il y est tellement, d'ailleurs, que sur plusieurs îles du Pacifique, il y a des soldats isolés qui n'ont pas voulu entendre que la guerre était terminée et qui se sont cachés dans la jungle en refusant de se rendre. Et Sternberg tombe sur une information brève qui raconte le cas d'un groupe entier de soldats restés pendant 6 ans sur l'île déserte d'Anatahan. Et donc, après que 13 hommes dans ce groupe sont morts ou ont été portés disparus à la suite de conflits qui tournaient tous autour de la seule femme du groupe, les rescapés ont été évacués en 1951. Et en plus, on sait qu'au moins 2 hommes avaient péri en se battant pour la femme et que plusieurs autres avaient mystérieusement disparu alors qu'ils avaient eu aussi une liaison avec cette femme. Et donc, Sternberg va rencontrer un des Japonais qui a écrit le journal de ce qu'il a vécu sur Anatahan et donc va vraiment s'imprégner. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est une histoire presque allégorique. Vous voyez, en gros, c'est l'histoire de... En gros, finalement, on a des Japonais qui sont sur une île déserte, la guerre est finie, mais ils préfèrent ne pas le savoir parce qu'ils préfèrent mener cette espèce de vie de désir à 30 autour de cette femme qui les fascine, quoi. Donc, c'est une espèce de métaphore complètement incroyable du désir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est aussi ancré dans une histoire très réelle et que Sternberg a fait une véritable analyse pour... et écouter les gens qui avaient connu cette période. Alors, il y a d'ailleurs un petit livre publié par Capricci qui nous raconte notamment, d'ailleurs, comment Sternberg a constitué son équipe, comment il est parti à la recherche de l'actrice, et puis aussi comment il a recruté Okazaki Kozo, qui deviendra un des plus grands directeurs photo du cinéma japonais et qui fera même les images de Yakuza, le thriller tourné au Japon par Sidney Pollack. Alors, la réception de Fièvre sur Anatahan, elle va être très mauvaise au Japon. Sternberg nous explique d'ailleurs, il dit dans ses mémoires, il dit il n'y avait que 10 cinémas au Japon. Bon, donc.
Alors, il y a peut-être aussi une raison que vous n'avez pas précisé, Antoine, c'est que le film n'est raconté pratiquement exclusivement en voix off par Sternberg lui-même.
Absolument.
On entend, les acteurs sont tous japonais, mais on entend finalement des bribes de japonais pendant tout le film. C'est lui vraiment qui nous raconte l'histoire avec une certaine distance. C'est peut-être cette distance aussi qui a pu gêner le public japonais
et,
à cette époque.
Et le fait que ce soit un occidental.
Exactement.
Car enfin, on a une histoire extrêmement douloureuse. Vous voyez, les japonais, eux, l'histoire, c'est la guerre, c'est Hiroshima, c'est la défaite, c'est le Japon de 1953, c'est un pays en ruine, quoi. Il n'a été réaccepté à l'ONU qu'en 56 avec les diplomates japonais qui sont allés en courbant les Chines suppliant qu'on veuille bien les remettre dans le concert des nations. Enfin, le Japon au début des années 50, c'est un pays totalement dévasté. Et donc voilà, vous avez un gars austro-américain qui arrive, qui est fasciné par le désir des hommes autour d'une femme qui est un peu comme la reine des abeilles.
Et je pense aussi sincèrement fasciné par la culture japonaise aussi.
Il y a une fascination de Sternberg pour la culture japonaise, il y a une fascination de Sternberg pour, je dirais, l'exotisme, l'Asie, parce que très souvent dans ses mémoires, il parle d'épisodes qu'il a vécu en Chine ou à Bali, enfin il est très... très, très lié à l'Asie, et puis évidemment pour le Japon. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le soin que met Sternberg à interroger les gens, dans le soin qu'il met à s'entourer vraiment de Japonais qui connaissent la société japonaise et qui vont tout le temps lui dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, il fait quelque chose de tout à fait sérieux. Mais il y a quand même ce péché originel qui est cet occidental, qui d'abord qui raconte l'histoire, comme vous le dites très justement, et qui ensuite se permet d'utiliser un épisode douloureux qui touche tout le Japon pour poursuivre son aventure cinématographique sur la façon de filmer le désir et, je dirais, la fascination presque servile. Au fond, dans le cinéma de Sternberg, la fascination de l'homme pour la femme est un peu une fascination d'esclave. C'est un peu ce que suscite Marlène Dietrich et c'est un peu aussi ce que suscite Keiko dans Fièvre sur Anata Anne. Alors, en Angleterre, apparemment, d'après ce que dit Sternberg dans ses mémoires, ils ont diffusé le film en mettant des sous-titres et des bandes-sons qui étaient très différentes de ce que racontait Sternberg, donc évidemment il était furieux, il dit que ça n'a aucun intérêt. Et puis quand même, il y a un pays où le film, malgré une sortie modeste, a quand même été bien accueilli, c'est la France, puisque Philippe de Montsablon, dans Les Cahiers du cinéma...
Vous êtes allé le retrouver loin.
Oui, il ne faut pas oublier qu'au Cahiers du cinéma, il n'y a pas eu seulement Jacques Rivette et François Truffaut et Jean-Luc Godard.
C'est bien de le rappeler.
Il y a eu aussi Philippe de Montsablon, et c'était lui qui s'était chargé de la critique de Fièvre sur Anata Anne, et il avait parlé d'une œuvre d'art de haute maturité, et pour cause, c'était le dernier film de Sternberg dans lequel les exigences du réalisateur se font plus impérieuses et où ses intentions s'expriment dans toute leur complexité.
Alors, cette très belle critique a-t-elle poussé Sternberg à rajouter des plans des années plus tard et à faire une nouvelle sortie, à reproposer une version nouvelle en 1958. C'est un film assez curieux en fait, hein, qui a une première sortie en 53 et une nouvelle sortie en 58.
Ce qui est certain, c'est que Sternberg aimait beaucoup ce film, qu'il considérait comme son meilleur film. La première sortie avait été un ratage et on peut penser qu'effectivement il tenait absolument à essayer de se donner une seconde chance parce qu'il n'avait pas non plus tant de cartouches que ça à tirer avec les studios. Mais il faut bien reconnaître que la deuxième sortie est passée tout aussi inaperçu que la première.
Alors voilà, donc c'est une bonne occasion là de se rattraper à partir du 5 septembre, redécouvrir cette œuvre fiévreuse, assez étrange finalement, un peu atypique dans sa carrière, mais Antoine quand même, voilà, à découvrir absolument.
Ah, tout à fait à découvrir. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est un objet tout à fait étonnant qui vaut d'être regardé.
Yes, we have picked the deepest part of the Pacific Ocean, deep and solemn. And we were to be here for 7 long years, and little did we know that the enemy was not in planes overhead, nor was it the lack of food, the lack of water and medicine, nor the venomous plants that hemmed us in. How could we know that we had brought the enemy with us in our own bodies, an enemy that would attack without notice? And so we entered the twisting, haunted labyrinth of an unfamiliar jungle, a beautiful but vicious world in which many of us never return.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.